Et c'est l'heure du journal d'Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Saint-Martin et Saint-Barthélemy balayés par l'ouragan Irma. Un bilan provisoire fait état de 4 morts à Saint-Martin. Les deux îles n'ont plus d'électricité, plus d'eau potable. Les dégâts sont terribles. Ce sera le dossier de ce journal. Emmanuel Macron a choisi le berceau de la démocratie pour présenter ses ambitions pour l'Europe. Une Europe qui protège et qui se projette. Notre zone euro doit sortir d'une forme de guerre civile interne, déclare le chef de l'État. Marie Viennot est pour nous à Athènes. Michel Barnier appelle une nouvelle fois le Royaume-Uni à la responsabilité. Le négociateur en chef de l'Union européenne souligne les divergences qui persistent au sujet du Brexit, en particulier la question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. La justice valide la reprise de GMES par GMD, c'était la dernière étape judiciaire, mais les salariés de l'équipementier automobile creusois préviennent qu'ils restent mobilisés. Nous retrouverons Isabelle Raymond à la Souterraine. On voyait le monde s'écrouler autour de nous, témoigne un habitant de Gustavia, le chef-lieu de Saint-Barthélemy. Sur cette petite île des Antilles, comme à Saint-Martin, 25 km plus loin, la nuit a été terrible. Une nuit d'apocalypse où le vent soufflait parfois à plus de 300 km/h. Et ce matin, après le passage de l'ouragan Irma, les gens étaient tout simplement soulagés d'être en vie. Steve Prudent, journaliste à Outre-mer Première, décrit les paysages dévastés qu'il a sous les yeux.
C'est un paysage tout simplement de guerre. On a le sentiment que l'île a été totalement bombardée avec des arbres soufflés par la force des rafales. Les bâtiments n'ont pas tenu, de l'eau partout, des enchevêtrements de voitures, de bateaux. C'est compliqué, un paysage de guerre pour ceux qui malheureusement ont dû vivre ça. Il n'y a pas d'autre description. Pour l'instant, la population est surtout préoccupée par le ravitaillement actuellement, parce que comme tous les supermarchés sont fermés ou ont été détruits. Donc la préoccupation principale de la population, ce sont des besoins vitaux, de l'eau, de la nourriture. Et donc on voit des files ininterrompues d'habitants qui se déplacent avec un pack d'eau, un paquet de biscuits, des fois des choses dérisoires, mais tout est bon à prendre pour plus tard.
Le témoignage de Steve Prudent, joint à Saint-Martin par Céline Aslo. Irma, ouragan d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, a causé la mort d'au moins 4 personnes à Saint-Martin et les dégâts sont énormes. En fin d'après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a fait un point sur la situation. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie.
Le chef du gouvernement a dressé un bilan provisoire et souligné l'importance de la mobilisation.
La mine grave, bien sûr, Édouard Philippe est revenu sur le bilan humain. On avait évoqué le chiffre de 8 morts, il a parlé, vous venez de le dire, de 4 cadavres retrouvés sur l'île de Saint-Martin, île qui, pour la partie française, compte 35 000 habitants et aucun mort à Saint-Barthélemy où vivent 9 500 personnes. Il y a une cinquantaine de blessés, dont 2 dans un état très grave. Étant donné le chaos, les routes encore complètement impraticables, le bilan devrait évoluer. En ce qui concerne les dégâts matériels, 95% des maisons sont détruites et 60% maintenant inhabitables. Il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité. Alors EDF va acheminer une cinquantaine de groupes électrogènes depuis la France par gros porteurs, mais pas avant dimanche. Apparemment, l'ouragan Harvey à Houston désorganise le trafic aérien. Il n'est pas possible d'avoir de très gros avions avant. Alors, une bonne nouvelle dans ce chaos, l'aéroport de Saint-Martin est accessible. Un avion s'est posé à 9h heure locale. Il est midi en ce moment. L'aérodrome de Saint-Barth semble aussi praticable. L'hôpital qui a perdu son toit à Saint-Barthélemy, les blocs opératoires de cet hôpital fonctionnent, a dit le Premier ministre. Et puis la sécurité qui est une autre priorité pour Matignon. Dès que le pont aérien entre la Guadeloupe à 250 km de là et ses îles sera en service, eh bien 400 gendarmes seront dépêchés pour éviter les pillages. Enfin, l'angoisse reste très forte. 2 nouveaux cyclones sont en formation. José notamment pourrait frapper les îles meurtries d'ici 2 jours, a dit le Premier ministre. Alors que beaucoup d'abris sont déjà dévastés, il faut donc prendre en compte ce nouveau danger, même si cet ouragan sera sensiblement moins violent qu'Irma.
Merci Tara. On aura plus de précisions sur l'ampleur des dégâts quand les premiers secours arriveront à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Nous joignons notre envoyé spécial en Guadeloupe, devenu donc la base arrière des secours, Mathieu Mandoloni. Les secours sont toujours en phase d'organisation.
Ils sont en train de monter ce centre opérationnel qui va être basé ici, notamment après l'arrivée de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui est venue non pas seule, mais avec 160 personnes. Parmi ces personnes, il y a des pompiers, il y a du personnel médical, il y a des bénévoles de la Croix-Rouge et il y a également des militaires de la sécurité civile. Ils sont au nombre de 70 et parmi eux, il y a le lieutenant-colonel Vincent Boichard.
Nous, on a déjà des équipes, les moyens militaires de sécurité civile ont déjà 47 personnes qui avaient été prépositionnées sur Saint-Martin avant le cyclone. et qui maintenant donc commence les reconnaissances, essaie de voir un petit peu où sont les priorités. La priorité, c'est quand même d'accéder aux victimes. Donc il faut qu'on réouvre les accès. Et puis après, il va falloir qu'on abrite les gens qui n'ont plus de structure en dur. Il faut qu'on recense aussi, faire un recensement des besoins. Et puis après, il faut surtout alimenter en eau et en nourriture les populations, le temps que tout le système économique se remette en place.
Voilà, lui et ses hommes vont rejoindre les personnes qui étaient déjà présentes ici. Il y avait environ 300 personnes déjà en attente en Guadeloupe, ainsi qu'une frégate militaire qui est déjà prête à partir en direction de ces îles.
Mathieu, le problème évidemment, c'est que les dégâts compliquent la tâche des secours.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, ces dégâts empêchaient jusqu'à maintenant l'arrivée des secours. D'abord parce que la violence de l'ouragan empêchait d'accoster, empêchait d'atterrir. Et maintenant que l'ouragan s'est écarté, eh bien, il y a toujours cette problématique de où atterrir. Comment ramener les besoins, les premières priorités de l'eau, de la nourriture, éventuellement des vêtements pour les sinistrés ou pour les victimes. Alors, il y a cette piste dont vous parliez qui s'est réouverte. Les autres, pour l'instant, sont condamnés. Donc, il y a un autre moyen d'accéder à ces îles. Ce sont les hélicoptères. Mais là, on n'a pas beaucoup de place dans les hélicoptères pour ramener ces fournitures. Donc on passe par la mer. Mais là, c'est 8 heures pour rejoindre Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Mathieu Mondoloni avec Arthur Gerbeau. Le passage d'Irma a fait un mort à Barbuda et à Aguilla, un autre à la Barbade, 3 morts à Porto Rico. L'ouragan menace à présent Haïti, où la population a été tardivement prévenue des risques qu'elle encourait. Mais les abris d'urgence ne sont pas encore prêts à les accueillir. Les précisions de la correspondante de RFI à Haïti, Amélie Baron.
Les habitants de la deuxième ville d'Haïti savent maintenant qu'un cyclone arrive, mais aucun n'est encore vraiment finalement en train de se préparer à évacuer. Dans le centre-ville, sur les trottoirs, les marchandes de fruits et légumes étalent leurs produits comme si de rien n'était. Les taximotos et les voitures circulent comme un jour habituel. Je viens de passer dans le quartier de la rue des Miracles, qui se situe en bord de mer. C'est un quartier très pauvre. Les gens disent attendre tout simplement que les autorités viennent les aider à se déplacer parce que eux n'ont pas les moyens. Il faut leur expliquer clairement. Il faut répéter que s'ils restent ici, ils vont mourir. Et là, certains seulement commencent à se demander où sont les abris d'urgence. Mais malheureusement, les abris d'urgence sont encore pour l'heure fermés.
Emmanuel Macron se rendra dès que possible dans les zones touchées par l'ouragan Irma. Actuellement, le chef de l'État se trouve en Grèce. Il est venu présenter à Athènes son projet pour l'Europe, un projet de refondation de l'Union européenne pour lui donner un nouveau souffle et la rendre, dit-il, plus démocratique. Aux côtés du président Prokopios Pavlopoulos, Emmanuel Macron a plaidé aujourd'hui pour une réforme de la zone euro permettant d'assurer davantage de solidarité entre ses membres. Et il a ensuite retrouvé le premier ministre grec Alexis Tsipras, Marie Vienno.
Oui, alors sur la refondation de la zone euro et de l'Union européenne, il faudra attendre son discours ce soir au pied de l'Acropole.
Alors Marie, on va essayer de vous joindre un tout petit peu plus tard parce que là vraiment on vous entend très très mal. On va d'abord parler de l'Union européenne. Le Parlement britannique examine le projet de loi d'abrogation du droit européen. Aujourd'hui, c'est une étape importante dans le processus du Brexit. Il s'agit de déterminer quelles lois européennes seront conservées dans le droit national une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne. Mais ce divorce s'avère particulièrement complexe et les négociations avec l'Union patinent. Aujourd'hui, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, souligne un point de blocage avec le Royaume-Uni, la question de la future frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Londres souhaite qu'il n'y ait aucun poste frontière. Or, pour l'Union européenne, cette option n'est pas envisageable, Pierre Benazet.
Effectivement, la proposition britannique est vue par Michel Barnier comme une sorte de ballon d'essai de la part du gouvernement de Theresa May. Selon le négociateur en chef de l'Union européenne, qui affiche ouvertement son inquiétude, les Britanniques sont en train, avec la frontière intra-irlandaise, d'essayer de mettre en place ce qu'ils souhaiteraient obtenir avec l'ensemble de l'UE, à savoir des frontières ouvertes qui permettraient au Royaume-Uni de se retirer formellement du marché unique européen, tout en continuant à y accéder les avantages sans les obligations, en quelque sorte. Pour Michel Barnier, ce que propose le gouvernement britannique reviendrait à demander à l'UE de suspendre en sa faveur ses lois, son marché unique et son union douanière. Londres devra négocier avec l'Union la possibilité d'un statut plus favorable que les simples règles commerciales internationales prévues par l'Organisation mondiale du commerce. C'est tout le but des négociations en cours. Pour l'UE, il ne peut y avoir d'exception, même si le statut de l'Irlande constitue évidemment un problème. On oublie trop souvent que ce n'est pas la Grande-Bretagne qui quitte l'UE, mais tout le Royaume-Uni, Ulster compris. La perspective d'une frontière fermée entre l'Ulster l'Ulster et le reste de l'île est vu par tous comme une menace pour l'avenir de la paix civile en Irlande. Mais pour l'UE, l'absence de poste frontière à une frontière extérieure n'est pas envisageable. On pensait jusqu'ici que la question du règlement financier et celle des droits des citoyens seraient les principaux problèmes, et la question irlandaise apparaît donc comme une nouvelle pierre d'achoppement imprévue. Pour l'UE, il est d'autant plus important que le Royaume-Uni propose une solution créative et acceptable, que ces trois questions doivent impérativement être résolues avant que les Européens acceptent d'envisager l'ouverture de négociations parallèles sur la future relation entre l'UE et le Royaume-Uni post-Brexit.
Pierre Benazet à Bruxelles, merci. Alors nous espérons avoir retrouvé Marie Vienno en direct d'Athènes où Emmanuel Macron présentait donc son projet pour l'Europe et il était il y a quelques instants avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras.
Oui, alors le projet pour l'Europe, il sera présenté dans quelques instants au pied de l'Acropole. Je suis d'ailleurs en ce moment dans le bus qui va vers l'Acropole, d'où les difficultés de liaison. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir être à la hauteur des attentes qu'il a créées en amont de ce discours. Il a eu encore tout à l'heure, aux côtés d'Alexis Tsipras, des propos très durs envers l'Union européenne, comme « l'Europe doit sortir d'une décennie de tâtonnement », propos accompagnés de promesses fortes. « Les prochains mois seront un moment de refondation profonde », dit-il. Nous allons poser les jalons de cette nouvelle Europe. Alors la France et la Grèce ont-elles les mêmes idées en la matière? Nous le saurons dans quelques heures, quelques minutes même. Ce qui était flagrant en tout cas lors de cette conférence de presse, c'est qu'Emmanuel Macron et Alexis Tsipras sont d'accord sur de très nombreux sujets d'importance. Le plus important et le plus inédit, c'est au sujet du FMI. Le président français considère que la présence du FMI dans les différents plans de sauvetage grec n'est pas légitime. C'est la première fois qu'un dirigeant français et même européen le dit aussi clairement, et c'est à l'opposé total de la position de l'Allemagne. Autre convergence totale sur l'allègement nécessaire de la dette grecque et sur l'analyse de l'économie grecque, dont tous deux estiment qu'elle est en train de sortir de la crise. Une page se tourne, selon Alexis Tsipras, et Emmanuel Macron assure que la France et ses entreprises seront là pour accompagner cette reprise. Une quarantaine de chefs d'entreprise français participent justement à ce voyage et on aura demain des précisions sur des accords possibles dans le domaine du numérique, des infrastructures et de l'énergie.
Marie Vienno en direct d'un bus athénien, merci. Discrète depuis sa défaite au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen veut réendosser son costume de chef du FN et d'opposante à Emmanuel Macron. Elle fait sa rentrée politique à la télévision ce soir avant une apparition à Brachet en Haute-Marne samedi. Bonsoir Christine Monclar.
Bonsoir Aurélie.
Alors il faut bien le dire, en cette rentrée, la situation est toujours difficile au Front National.
Oui, c'est la rentrée de l'après-accident industriel en quelque sorte et Marine Le Pen revient de ses relativement longues vacances démonétisées à la tête d'un parti en convalescence. Pour rebondir, elle va d'abord tenter de reprendre ses attaques contre Emmanuel Macron dès ce soir à la télévision, afin d'essayer de récupérer ce rôle d'opposant endossé jusque-là par la France insoumise. Mais difficile d'exister quand on est autant bousculé en interne. Il lui faut aussi remettre de l'ordre dans son parti. Le sort de Florian Philippot, bien sûr, est au cœur des débats. Marine Le Pen s'est sentie trahie par lui quand il a lancé son mouvement Les Patriotes en pleine élection législative. Aujourd'hui, elle lui demande donc de choisir entre son association et le Front National. Alors ses partisans se raccrochent à tout ce qu'ils peuvent trouver. L'attitude de Philippot recoalise les militants autour de la patronne, se rassure ainsi un député mariniste. Ce n'est pas tout à fait l'avis d'un historique du Front National qui prétend que les militants sont au contraire passés de l'adoration à la haine, voire au mépris. Pendant l'été, Robert Ménard, le maire de Béziers, a mis publiquement en cause sa légitimité et puis comme à son habitude, son père Jean-Marie Le Pen vient de lui glisser une petite peau de banane de rentrée en lui conseillant de faire attention à Laurent Wauquiez. Alors rebondir pour Marine Le Pen, c'est donc déjà s'extirper de tous ces pièges tendus par sa propre famille politique et puis retourner sur le terrain au contact des militants via une tournée des fédérations qui démarrera ce week-end. Marine Le Pen est prête à tout entendre, assure l'un de ses amis. Tant mieux, car elle devrait trouver dans ses échanges avec sa base matière à réfléchir à l'avenir du Front National et au sien.
Christine Monclat, l'agresseur de Nathalie Kosciusko-Morizet, condamné à 3 mois de prison avec sursis. Vincent Debrez devra s'acquitter de 1 000 euros d'amende. À l'approche du second tour de la présidentielle, il avait pris à partie la candidate Les Républicains qui distribuait des tracts sur un marché parisien. Nathalie Kosciusko-Morizet était tombée, elle avait perdu connaissance et avait dû être brièvement hospitalisée. Le Conseil des prud'hommes de Bobigny s'intéresse à la longueur de la barbe des employés de Securitas. Juste après les attentats du 13 novembre 2015, quatre agents de sécurité travaillant à l'aéroport d'Orly avaient été convoqués. La direction voulait qu'ils coupent leur barbe. Leur refus leur a valu d'être licenciés début 2016 et les quatre hommes réclament des dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire. Camille Magnard, vous êtes au Conseil des prud'hommes de Bobigny. Securitas se défend d'avoir stigmatisé les employés d'origine musulmane.
Oui, ça donne donc cette déclaration de Maître Dubesset, l'avocat de Securitas. Si un fan de ZZ Top avec une barbe de 20 cm ou un punk à crête d'Iroquois s'était présenté au travail, on l'aurait aussi empêché de prendre son poste. L'avocat qui reconnaît tout de même que de toute façon, on n'en a pas dans nos équipes. Par contre, des salariés qui tiennent à porter la barbe, qu'ils soient musulmans ou non, ça oui, il y en a chez Securitas. Une vingtaine jamais remise en cause dans leur pilosité jusqu'aux attentats de novembre 2015, mais convoqués quelques jours après et sommés de raser leur fâcheuse barbe. Les quatre qui refusèrent furent licenciés, vous l'avez dit, début 2016. Pour l'employeur, il s'agit d'une simple question de neutralité, d'une image de sérieux, de rigueur qu'il faut renvoyer aux passagers d'Orly. D'autant plus que cette mission, les contrôles de sécurité juste avant la zone internationale, elle relève d'une délégation de service public. Elle ne tolérerait donc aucun manquement au référentiel vestimentaire de la société, celui-là même qui a été invoqué pour justifier les licenciements des quatre irréductibles barbus. Sauf que, pointe leur avocat, Maître Moutet, ce code vestimentaire mis en place en 2011, il exigeait une barbe soignée et taillée. Ses quatre clients, eux, ont été mis à pied juste après le 13 novembre 2015 en vertu d'un référentiel vestimentaire qui avait été durci, qui exigeait désormais une barbe courte. Cette version du texte n'a pas été soumise, comme c'est la règle, aux représentants du personnel de Securitas. Elle n'est donc pas recevable pour l'avocat, très sûr de son coup, qui réclame 40 000 euros d'indemnité pour chacun de ses clients, en plus des 10 000 euros pour licenciement discriminatoire lié à l'amalgame post-attentat entre barbe longue et pratique d'un islam radical. Les quatre de Securitas s'en défendent. Ils rappellent qu'ils ont toujours passé sans problème les enquêtes de moralité pour recevoir l'agrément de la préfecture et du procureur de la République. La barbe, disent-ils, ils la portent par goût, par effet de mode, au moins autant que par sentiment religieux. Les conseillers prud'homaux de Bobigny rendront leur décision dans cette affaire le 14 décembre prochain.
Camille Magnard à Bobigny avec Thomas Robin à la technique. Alors que l'on attend dans les semaines qui viennent un projet de loi sur le droit à l'erreur, Jacques Toubon demande un peu de mansuétude vis-à-vis des usagers qui se trompent dans leurs déclarations. Depuis 2014, le durcissement de la lutte contre la fraude aux prestations sociales a entraîné une hausse significative des réclamations auprès du défenseur des droits. Il s'est donc penché sur la question. Vous avez lu son rapport, Anne Lorchouin, et sans contester le principe des contrôles, Jacques Toubon semble penser que l'on utilise un gourdin pour écraser une mouche.
C'est l'idée, oui. C'est aussi un rapport qui remet les choses à leur place. En résumé, trop de moyens sont alloués au contrôle et à la sanction des fraudes aux prestations sociales en regard de leur poids dans la fraude en général. Quelques chiffres pour remettre dans le contexte. La fraude aux allocations familiales, en 2016, elle concernait 0,36% des allocataires. Et au total, cette fraude aux prestations sociales représente 3% seulement du montant total de la fraude détectée en France en 2015. 673 millions d'euros contre 21 milliards d'euros pour la fraude fiscale. Depuis 2014, vous l'avez dit, on constate une hausse alarmante des réclamations d'allocataires, d'où il ressort que certains d'entre eux, considérés comme fraudeurs, seraient plutôt des victimes. Et le rapport d'enchaîner les exemples comme cette veuve, dont on a estimé a priori qu'elle avait antidaté son veuvage, or c'était faux, ou ce retraité malade à qui on demande de venir se présenter en personne pour justifier qu'il est bien vivant, avec à chaque fois la suspension de leurs allocations. Alors pourquoi avoir à ce point renforcé la lutte contre la fraude aux prestations? Le défenseur des droits l'explique, notamment par le développement d'une rhétorique de la fraude, dit-il, alimentée par de nombreux discours décomplexés, je cite toujours. Autre facteur d'explication, les larges pouvoirs accordés aux organismes qui délivrent ces prestations et qui assimilent pratiquement systématiquement l'erreur ou l'oubli à de la fraude. C'est pourquoi Jacques Toubon réclame un droit à l'erreur pour l'usager, mais aussi une meilleure qualité d'information et de relations entre les organismes de sécurité sociale et leurs usagers, des relations qui se sont détériorées. Dernier chiffre, enfin, le montant des fraudes effectives aux prestations sociales est beaucoup moins important que toutes les allocations qui pourraient être versées et qui ne le sont pas, faute de recours.
Anne-Laure Chouin. Le tribunal de commerce de Poitiers valide la reprise de GMES. Il regrette le petit nombre de salariés repris, ainsi que l'extrême faiblesse du prix de cession. Mais il constate que l'offre de GMD présente les garanties industrielles et financières appropriées. C'était la dernière étape judiciaire concernant cette offre de reprise partielle de l'équipementier automobile creusois. Mais le dossier ne se referme pas aujourd'hui. Pour autant, les salariés mobilisés pour l'emploi et pour des indemnités préviennent qu'ils vont poursuivre leurs actions. Enfin, les programmes de France Inter et France Culture sont perturbés aujourd'hui par une grève de techniciens à l'appel de la CGT. Les techniciens soutiennent leurs collègues chargés des habillages de l'antenne qui demandent une prime reconnaissant leur charge de travail. Il n'y aura donc pas de journal à 22h. Pour finir, un aperçu de la météo. Pluie et vent se renforceront demain sur le nord et sur l'ouest. Dans le sud-est, la journée sera bien ensoleillée. Les températures atteindront l'après-midi 18 à 22 degrés sur la moitié nord, 21 à 27 plus au sud.